Chapitre 9. La chose dans le cabanon. Un endroit dangereux. J'appelle les secours. Le portefeuille. Une conversation intéressante. 1. Je n'étais plus obligé d'aller nourrir Radar à 6h du matin. Monsieur Boditch pouvait s'en charger désormais. Mais j'avais pris l'habitude de me lever tôt, alors ce jour-là, sur le coup de 7h moins le quart, je pédalais jusqu'en haut de la rue pour l'emmener faire ses besoins. Comme on était samedi, je me disais qu'on pourrait faire une petite promenade dans Pine Street, où elle aimait lire les messages laissés par ses congénères sur les poteaux téléphoniques et en laisser quelques-uns. Mais il n'y eut pas de promenade ce jour-là. Quand j'entrais dans la maison, Monsieur Boditch était assis à la table de la cuisine, devant un bol de porridge et un énorme bouquin de James Michener. Je me servis un verre de jus d'orange et lui demandai s'il avait bien dormi.
« J'ai survécu, » répondit-il sans quitter son gros livre des yeux.
Howard Boditch n'était pas trop du matin. Il n'était pas du soir non plus, évidemment. Ni même du midi, d'ailleurs.
« N'oublie pas de rincer ton verre quand tu auras fini. »
« Je le rince toujours. » Il émit un grognement et tourna une page de son pavé intitulée « Texas ». Je vidai mon jus d'orange d'un trait et appelai Radar, qui nous rejoignit dans la cuisine presque sans boiter.
Radi veut aller faire sa petite promenade ?
Ah, nom de Dieu !
Pesta Monsieur Boditch.
Arrête de lui parler comme un bébé ! En âge humain, elle a 98 ans !
Radar attendait déjà à la porte. Je lui ouvris et elle descendit les marches de derrière sans se presser. Je la suivis, avant de me souvenir que je devais prendre sa laisse si on allait se promener dans Pine Street. Et j'avais oublié de rincer mon verre de jus d'orange. Cet oubli réparé, je me dirigeais vers la patère où était suspendue la laisse, dans le vestibule, lorsque Radar se mit à aboyer, méchamment et très très fort. Rien à voir avec un aboiement du style « j'ai vu un écureuil ». Monsieur Boditch ferma son livre brutalement.
« Qu'est-ce qui lui prend, nom de Dieu ? Tu devras aller voir, Charlie. »
Je devinais ce qui se passait car je l'avais déjà vu réagir de cette façon. Ses aboiements signifiaient « alerte aux intrus ». Une fois encore, elle s'était tapie dans l'herbe, beaucoup moins haute désormais et presque débarrassée de tous les cacas. Elle faisait face au cabanon, les oreilles plaquées en arrière, les babines retroussées sur ses crocs. À chaque aboiement, des filets de bave jaillissaient de sa gueule. Je me précipitais vers elle, agrippais son collier et tentais de la faire reculer. Elle refusait de me suivre, et en même temps, je voyais qu'elle ne voulait pas se rapprocher du cabanon cadenassé. Malgré le tir de barrage des aboiements, je perçus ces étranges raclements, ces grattements à l'intérieur. Cette fois-ci, ils étaient plus forts et la porte tremblotait, comme les battements d'un cœur invisible. Aucun doute, quelque chose essayait de sortir.
« Radar !»
cria M. Boditch depuis la véranda.
« Reviens ici, tout de suite !»
La chienne continua à aboyer sans lui prêter attention. Quelque chose heurta la porte de l'intérieur, suffisamment fort pour faire entendre un bruit sourd. S'éleva alors un curieux miaulement, pareil à celui d'un chat, en plus aigu. C'était comme écouter une craie crissée sur un tableau noir. J'en avais la chair de poule. Je me plaçais devant Radar pour masquer le cabanon et marchais vers elle pour l'obliger à reculer d'un ou deux pas. Ses yeux fous étaient cerclés de blanc et soudain, je crus qu'elle allait me mordre. Mais non. Il y eut d'autres bruits sourds, d'autres grattements et de nouveau cet effroyable miaulement aigu. Radar en avait assez entendu. Elle fit demi-tour et fila vers la véranda. Elle en avait oublié de boiter. Elle gravit les marches et se blottit au pied de son maître sans cesser d'aboyer cependant.
« Charlie, éloigne-toi de là !»
« Il y a quelque chose à l'intérieur qui essaie de sortir. Un truc énorme, on dirait. »«
Reviens ici, mon garçon. Je t'ordonne de revenir ici. »
Nouveau choc assourdi. Nouveau grattement. J'avais plaqué ma main sur ma bouche comme pour étouffer un cri, sans m'en apercevoir.
« Charlie !»
Imitant Radar, je me mis à courir vers la maison. Car maintenant que je ne voyais plus le cabanon, il était facile d'imaginer que la porte était arrachée de ses gonds et qu'une vision cauchemardesque se lançait à ma poursuite en rampant ou en titubant avec des cris inhumains. Monsieur Boditch portait son horrible bermuda et ses vieilles pantoufles qu'il appelait des mules. Les cicatrices laissées par les broches du fixateur rougeoyaient sur sa peau blanche.
« Rentre dans la maison ! Rentre dans la maison ! Mais ne t'inquiète pas, la porte du cabanon tiendra bon, mais il faut que je règle ce problème. »
Je gravis les marches et entrai dans la maison juste à temps pour l'entendre dire tout bas, comme les gens qui se parlent à eux-mêmes.
« Ce salopard a déplacé les planchers, pourtant, il doit être balèze. »
J'ai déjà entendu ces bruits pendant que vous étiez à l'hôpital, mais moins fort.
Il me poussa dans la cuisine et me suivit, manquant de trébucher sur Radar qui tremblait entre ses jambes. Il se retint à l'encadrement de la porte.
« Reste ici, je m'en occupe. »
Il claqua la porte de derrière et se rendit dans le salon en traînant les pieds d'un pas chancelant. Radar le suivit, la queue entre les pattes. J'entendis M. Bauditch marmonner et pousser un juron de douleur suivi d'un grognement d'effort. Quand il revint, il tenait le revolver que je lui avais demandé de descendre, mais pas seulement. Le revolver était maintenant glissé dans un étui en cuir, lui-même attaché à une ceinture en cuir frappée de conchos argentés. On aurait dit un accessoire sorti tout droit de règlement de compte à hockey corral. Il fixa la ceinture autour de sa taille pour que le revolver repose juste sous sa hanche droite. Deux lanières de cuir pendaient le long de son bermuda en madras. Cet attirail aurait dû avoir l'air ridicule, lui aussi, mais ce n'était pas le cas.
« Reste ici !»«
Monsieur Bauditz, qu'est-ce que... Vous ne pouvez pas... »«
Reste ici, bordel !»
Il agrippa mon bras, à m'en faire mal. Il respirait par à-coups.
« Reste avec la chienne. Je ne plaisante pas !»
Il sortit en claquant la porte derrière lui et descendit les marches en crabe. Radar appuya sa truffe contre ma jambe en gémissant. Je la caressais distraitement en regardant par la fenêtre. À mi-chemin du cabanon, M. Bauditch extirpa son trousseau de clés de sa poche gauche. Il en choisit une et continua d'avancer. Il l'introduisit dans le gros cadenas, puis dégaina son calibre 45. Il tourna la clé et ouvrit la porte, le revolver pointé légèrement vers le sol. Je m'attendais à voir quelque chose ou quelqu'un se jeter sur lui, mais cela n'arriva pas. En revanche, je perçus un mouvement. Une silhouette noire et fine, une fraction de seconde. M. Bauditch entra dans le cabanon et ferma la porte derrière lui. Rien ne se produisit pendant un long, très long moment qui ne dura sans doute pas plus de 5 secondes. Puis, deux coups de feu retentirent. Les murs du cabanon devaient être extrêmement épais car les détonations, sans doute assourdissantes dans cet espace clos, me parvinrent sous la forme de coups étouffés, comme un marteau enveloppé de feutre. Et puis, plus rien. Pendant beaucoup plus longtemps que 5 secondes. Plutôt 5 minutes. La seule chose qui me clouait sur place était le ton autoritaire de M. Bauditch et son expression féroce quand il m'avait ordonné « Reste ici, bordel !» Mais au bout d'un moment, cela ne suffit plus à me retenir. J'étais certain qu'il lui était arrivé malheur. J'ouvris la porte de la cuisine et, juste au moment où je sortais sur la véranda, la porte du cabanon s'ouvrit et le vieil homme en émergea. Radar fila entre mes jambes comme un boulet de canon et, oubliant son arthrite, traversa le jardin ventre à terre vers son maître, tandis que celui-ci refermait le gros cadenas, auquel, heureusement, il put s'accrocher lorsque sa chienne lui sauta dessus.
« Couchez, Radar, couchez !»
Elle s'allongea à plat ventre en agitant la queue furieusement. M. Bauditch revint vers la maison, encore plus lentement qu'il n'avait marché jusqu'au cabanon, en boitant de manière visible. Une de ses plaies à la cuisse s'était rouverte et laissait perler quelques gouttes de sang presque noir. Elles me rappelèrent les rubis que j'avais vus dans l'arrière-boutique de M. Heinrich. Il avait perdu une mule.
« Aide-moi, Charlie. Ma putain de guibole est en feu. »
Je passais son bras autour de mon cou, saisis son poignet osseux et le traînais presque dans l'escalier à l'intérieur de la maison.
Faut que je m'allonge. J'arrive plus à respirer.
Je le transportais dans le salon. Il perdit sa seconde mule en chemin car ses pieds raclaient le sol et l'allongeait sur le canapé-lit.
Bon sang, Howard, c'était quoi ça? Sur quoi vous avez tiré? Le cellier. L'étagère du haut. Derrière les bouteilles de Wesson Oil. Le whisky. Juste ça.
Il écarta légèrement son pouce et son index. Il tremblait.
Si je l'avais trouvé pâle précédemment, maintenant que les taches rouges s'éteignaient sur ses joues, il ressemblait à un cadavre aux yeux encore vivants. J'entrai dans le cellier et dénichai la bouteille de Jameson à l'endroit indiqué. Malgré ma grande taille, je dus me hisser sur la pointe des pieds pour l'atteindre. La bouteille était poussiéreuse et presque pleine. Malgré mon état de peur panique, l'odeur du whisky lorsque j'ôtais le bouchon fit ressurgir les horribles souvenirs de mon père, affalé dans le canapé dans un état semi-comateux ou penché au-dessus des toilettes pour vomir. Le whisky n'a pas la même odeur que le gin. Et pourtant si. Pour moi, tous les alcools ont la même odeur de tristesse et de destruction. J'en versai une petite dose dans un verre à jus de fruits. Monsieur Bodditch l'avala d'un trait et fut pris d'une quinte de toux, mais il retrouva quelques couleurs. Il déboucla la ceinture tape à l'œil de cow-boy.
« Enlève-moi cette saloperie !»
Je tirai sur l'étui et la ceinture suivit. Monsieur Bodditch laissa échapper un
« putain !»
entre ses dents lorsque la boucle frotta contre ses reins.
« Qu'est-ce que j'en fais ?»«
Planque-le sous le lit !»
« D'où vient cette ceinture ?» J'étais certain de ne l'avoir jamais vue.
« T'occupe. Fais ce que je te demande, c'est tout. Mais avant, recharge le flingue !»
Il y avait un porte-balles sur la ceinture, entre les conchos. J'éjectai le barillet du gros revolver, remplis les deux chambres vides, le remis dans son étui et glissai le tout sous le canapé-lit. J'avais l'impression de vivre un cauchemar tout éveillé.
« C'était quoi ?»
demandai-je.
« Dans le cabanon !»«
Je te le dirai, mais pas aujourd'hui. Inutile de t'inquiéter. Tiens, prends ça. »
Il me tendit le trousseau de clés.
« Va le poser sur l'étagère, là-bas, et donne-moi deux oxys pour que je dorme. »
Je lui apportai deux cachets. Ça ne me plaisait pas qu'il mélange ce médicament puissant et le whisky, mais il en avait bu juste un fond.
« N'entre pas là-dedans, »
dit-il.
« Un jour, peut-être, mais pas maintenant. N'y pense même pas. »
C'est de là que vient l'or.
C'est compliqué, comme ils disent dans les séries télé de l'après-midi. Je ne peux pas en parler maintenant, Charlie. Et toi, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. À qui que ce soit. Les conséquences, je ne peux même pas l'imaginer. Promets-le-moi.
Promis.
Bien. Maintenant, fiche le camp. Laisse le vieil homme dormir.
2. Habituellement, Radar se faisait un plaisir de descendre la rue avec moi, mais ce samedi-là, elle refusa de quitter le chevet de son maître. Alors je rentrai seul chez moi et me préparai un sandwich au jambon et à la moutarde, avec du Wonder Bread, l'Anka des champions. Mon père avait laissé un mot indiquant qu'il assistait à une réunion des AA, à 9h. Après quoi, il irait jouer au bowling avec Lindy et deux autres amis abstinents. Tant mieux. J'aurais tenu la promesse que j'avais faite à M. Bodditch envers et contre tout.
Les conséquences, je ne peux même pas l'imaginer,
avait-il dit. J'étais certain que mon père aurait perçu quelque chose sur mon visage. Il était vachement plus sensible à ce niveau-là depuis qu'il ne buvait plus. En temps normal, je trouvais ça bien, mais pas aujourd'hui. Quand je retournais au 1 Sycamore Street, M. Bodditch dormait encore. Il semblait aller un peu mieux, mais sa respiration était rauque, comme le jour où je l'avais découvert affalé sur les marches de la véranda, la jambe cassée. Je n'aimais pas ça. Le soir, sa respiration était redevenue normale. Je nous fis du pop-corn à l'ancienne en le faisant sauter dans une poêle sur la Hot Point. On le mangea en regardant Le plus sauvage d'entre tous sur mon ordi. Choix de M. Bodditch. Je n'avais jamais entendu parler de ce film, mais c'était bien. Je m'en fichais que ça ne soit pas en couleur. À un moment donné, M. Bodditch me demanda de faire un arrêt sur image alors que la caméra filmait Paul Newman en gros plan.
N'est-ce pas le plus bel homme de tous les temps, Charlie? Qu'est-ce que t'en penses?
Je répondis qu'il avait peut-être raison. Je dormis sur place. Le lendemain, le dimanche, l'état de M. Bodditch semblait s'être encore amélioré, alors j'allais pêcher avec mon père près du barrage de South Elgin.
On n'attrapa pas un seul poisson, mais c'était agréable d'être avec lui sous le doux soleil de septembre.
« Tu es sacrément silencieux, Charlie, » me dit-il sur le chemin du retour. « Quelque chose te tracasse ?»«
Je pense à la vieille chienne, c'est tout. » »«
Un mensonge, oui. » »« Où il y avait tout de même un peu de vrai. » « Amène-la cet après-midi, » proposa papa, et j'essayais d'emmener Radar à la maison, mais elle refusa de quitter son maître.
« Dors dans ton lit cette nuit, » me dit M. Boditch. « Ma fifi et moi, on va se débrouiller. »
« Vous avez la voix éraillée. J'espère que vous ne couvez rien. »«
Non, c'est parce que j'ai parlé presque toute la journée. »«
Avec qui ?»«
Avec moi-même. Allez, file. » »«
Ok. Mais appelez-moi en cas de besoin. »«
Oui, oui. » »«
Promettez-le-moi. Je vous ai donné ma parole hier. À vous maintenant. »«
Je te le promets, nom d'un chien. Allez, fiche-moi le camp. »
3. Le dimanche, après avoir fait ses besoins du matin, Radar fut incapable de gravir les marches de la véranda et elle mangea seulement la moitié de sa gamelle. Le soir, rien du tout.
« Sans doute qu'elle a juste besoin de repos, »
dit M. Boditch, mais il paraissait dubitatif.
« Double la dose de médicaments. »
« Vous êtes sûr ?» Il m'adressa un sourire sans joie.
Qu'est-ce qu'on risque à ce stade ?
Ce soir-là, je dormis dans mon lit, donc. Et le lundi, Radar semblait aller un peu mieux. Et M. Boditch, lui, payait le contre-coup de ses efforts de samedi. Il avait repris ses béquilles pour aller aux toilettes. J'avais envie de sécher le lycée pour rester avec lui, mais il me l'interdit. Le soir venu, il semblait aller mieux, lui aussi. Il affirma qu'il était rétabli. Et je le crus. Quel idiot. 4. Le mardi matin, à 10h, j'étais en cours de chimie. Réparti en groupes de 4, protégés par des tabliers et des gants en caoutchouc, on essayait de déterminer le point d'ébullition de l'acétone. Le calme régnait dans la classe, on n'entendait que des murmures. C'est pourquoi la sonnerie de mon portable résonna de manière assourdissante. Monsieur Ackerley me lança un regard désapprobateur.
« Combien de fois vous ai-je demandé de couper vos... »
Je sortis le téléphone de ma poche et vis Boditch s'afficher. J'ôtai mes gants et quittai la salle de classe pour prendre l'appel sans me soucier des protestations de M. Ackerley. M. Boditch semblait fatigué, mais calme.
« Je crois que je fais une crise cardiaque, Charlie. En fait, j'en suis sûr. »«
Vous avez appelé ?»«
C'est toi que j'appelle. » Alors tais-toi et écoute. Il y a un avocat à Elgin, Léon Braddock, et un portefeuille, sous le lit. Tout le reste dont tu auras besoin se trouve également sous le lit. Tu as compris? Sous le lit. Prends bien soin de Radar. Et quand tu sauras tout, décide.
Il suffoqua.
Oh putain, ça fait mal. C'est comme un fer rouge dans la poitrine. Quand tu sauras tout, décide ce que tu veux faire d'elle.
Et ce fut tout. Il raccrocha. La porte de la salle de chimie s'ouvrit au moment où j'appelais les secours. Monsieur Ackerley sortit dans le couloir pour me demander où je me croyais. Je le fis taire d'un geste. L'opératrice me demandait quelle était la cause de mon appel. Face à un monsieur Ackerley hébété, je lui expliquais ce qui se passait et lui donnais l'adresse. Je détachai mon tablier et le laissai tomber par terre pour me précipiter vers la sortie.